Vous écoutez On lit pour vous.
Île de la Madeleine, au pays de la résilience. Un texte de Nathalie Collard, paru le 22 septembre 2025 dans la presse. Partout au Québec, des communautés se mobilisent pour surmonter des épreuves. Cet automne, Dialogue vous invite à en visiter quelques-unes. Première escale, les îles de la Madeleine, où notre chroniqueuse a constaté que malgré les défis qu'impose la vie insulaire, les Madelinos ne baissent jamais les bras. Par une belle soirée d'août, des dizaines de personnes sont réunies sur le terrain de la microbrasserie, à l'abri de la tempête, à l'étang du Nord. Un trio de musiciens assure l'ambiance de ce qui ressemble à un gros pique-nique familial. Les Madelinos sont réunis pour lancer la campagne de financement en soutien au rachat du phare du Cap Allwright, mis en vente par l'animatrice et productrice Julie Snyder au coût de 595 000 $. C'est le sujet de conversation de l'été aux îles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me craque les racines, lance le conteur Cédric Landry à l'Assemblée. La mise en vente du phare de l'Échourie, à Avromaison, a eu l'effet d'un électrochoc au sein de la communauté madelinienne, qui n'a pas tardé à se retrousser les manches. Ça nous prenait un événement comme ça pour réaliser que lorsqu'on parle de la perte de notre territoire, ça comprend aussi notre patrimoine, souligne Véronique Deraspe, directrice de la Société de conservation des îles de la Madeleine, SCIM. La SCIM est un des organismes membres du comité d'acquisition collective du phare. En l'espace de quelques semaines, la communauté s'est mobilisée et au moment d'écrire ces lignes, près de 250 000 $ avaient été amassés. Le comité qui a conclu une entente de principe avec Julie Snyder pour un prix de 550 000 $ avant taxes doit trouver les centaines de milliers de dollars manquants d'ici le 15 octobre 2025. Dans mes rêves, lance Véronique Deraspe, on se créerait un fonds pour protéger d'autres perles de nos cantons. Mais pas comme ça, pas dans l'urgence, pas au beau milieu de l'été. La mise en vente du phare est loin d'être la pire épreuve qu'ont eu à surmonter les Madelinos. La liste est longue. Interdiction de la chasse aux blanchons, fermeture de certaines pêcheries, tempête, érosion des berges. L'histoire des îles de la Madeleine rime avec adversité, mais aussi avec ingéniosité. Connaissez-vous l'histoire du ponchon? Me demande le député péquiste Joël Arsenault, un natif de l'endroit. En 1910, après la rupture de l'unique câble qui les relie au continent, les Madelinos mettent à l'eau un petit baril muni d'une voile dans lequel ils déposent des messages. En deux semaines, le baril se rendra contre vents et marées jusqu'à l'île du Cap-Breton. Cette histoire, insiste M. Arsenault, montre à quel point la résilience est inscrite dans l'ADN des Madelinos. La nécessité est mère de l'invention. En septembre 2022, la tempête Fiona frappait les îles. Sur la grave à Havre-Aubert, les dégâts étaient considérables. Trois ans plus tard, non seulement les commerçants sont revenus et ont consolidé leurs bâtiments, mais de nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes sur ce site historique. Les lieux grouillent de touristes. Il y a un avant et un après Fiona, croit Jasmine Solomon, chef de section en action climatique à la municipalité des îles de la Madeleine. La tempête Dorian en 2019, dit-elle, avait éveillé les Madelinos à la réalité des changements climatiques, car les dégâts étaient très visibles. Fiona a eu un impact au niveau réglementaire. Ça a déclenché des discussions avec différents ministères pour qu'on agisse de façon durable. Il y a deux ans, la communauté maritime des îles de la Madeleine, l'agglomération qui comprend les municipalités des îles et de Grosse-Île, a donc déposé son cadre d'intervention en érosion et submersion côtière. Et depuis, 31 sites sont surveillés de près. Parallèlement, on a mis en place diverses mesures pour ralentir l'érosion. Je visite les îles depuis 20 ans et j'ai vu le paysage changer au cours des dernières années. À commencer par les enrochements et les recharges de plages à la grave, après le passage de Dorian, où on observe un retour à la biodiversité plus rapide que prévu. Se réjouit Mme Solomon. Une équipe de 50 scientifiques suit l'évolution des différentes recharges partout sur le territoire des îles, m'explique-t-elle, et on pense installer des caméras pour surveiller d'encore plus près les effets des tempêtes. Mme Solomon est enthousiaste. Les projets se multiplient. Jusqu'en 2030, le ministère du Transport et de la Mobilité durable, TMDQ, construit des recharges à des endroits particulièrement vulnérables, comme la Martinique et Pointe-aux-Loups. Plutôt que d'importer des galets de Terre-Neuve, comme pour la grave, on récolte le sable directement dans la mer pour reconstruire les cœurs de dunes. Toujours à la Martinique, un projet pilote verra l'installation de tubes en géotextile remplis de sable. Ils permettront de stabiliser l'érosion et de soutenir la recharge de plages. D'archipel vulnérable, les îles de la Madeleine sont en train de devenir un véritable laboratoire pour l'adaptation au changement climatique. Quand on peut, on utilise la nature environnante pour contrer l'érosion, comme pour ces brises vagues faites de sable et de végétation qui diminuent la puissance des lames qui viennent s'écraser sur la côte. Un autre exemple? La biocalcification des falaises, un projet en attente de financement. En gros, m'explique Jasmine Solomon, il s'agirait de produire des micro-organismes qui fabriquent une fine pellicule pouvant recouvrir les falaises. Comme si on les enveloppait dans une pellicule plastique de type Saran Wrap pour réduire l'érosion. Les tests sont concluants ailleurs, affirme Mme Solomon, et la bactérie pourrait même être produite sur place. Un lieu d'innovation. Au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, CERMIM, un organisme qui est au cœur de l'innovation en environnement, on aimerait bien faire des îles un pôle de recherche et développement. C'est ce que m'explique Marc-Olivier Massé, directeur associé du Centre, créé en 2004 et qui compte actuellement 15 employés. On fait le lien entre la recherche, l'entreprise et la communauté, et on travaille sur trois axes, la gestion des déchets, l'économie circulaire et la mer, précise-t-il. On occupe beaucoup le Golfe, ajoute le géographe de formation en me montrant un des deux robots sous-marins télécommandés capables de plonger à plus de 300 mètres de profondeur pour aller chercher des instruments techniques ou encore pour récupérer des casiers à crabes et à homards. Une technologie d'avant-garde qui leur amène plusieurs contrats. Le CERMIM collabore avec des chercheurs du Québec et des provinces maritimes, en plus d'être en contact avec des réseaux insulaires ailleurs dans le monde. On travaille aussi avec les différentes industries pour qu'elles améliorent leurs pratiques et deviennent résilientes, souligne M. Massé. L'insularité oblige les chercheurs à rivaliser de créativité. Il faut viser l'autosuffisance sans générer trop de déchets. Ça donne des projets comme la valorisation des coquilles de mollusques, pétoncles, palourdes, etc., qui, broyées, remplacent la chaux importée aux îles pour faire baisser l'acidité des sols. C'est cette acidité qui leur donne leur belle couleur rouge. Autre exemple, un projet pilote de broyage de résidus de crabes transformés en engrais pour le jardin. Des déchets en moins au Centre de gestion des matières résiduelles de Havre-aux-Maisons, déjà sous pression. C'est à se demander si le proverbe « la nécessité est mère de l'invention » n'a pas été inventé aux îles. Attirer des gens aux îles. Tout autant que les changements climatiques, le déclin démographique inquiète le maire de la municipalité, Antonin Valiquette. Ici, m'explique-t-il, l'âge médian est supérieur de 10 ans à la médiane québécoise. Sur le continent, pour 100 personnes qui prennent leur retraite, il y a 60-70 personnes qui prennent la relève. Et les gens s'inquiètent. Aux îles, c'est 35. La communauté maritime des îles n'a pas attendu que les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, se réalisent pour agir. En 2017, la communauté maritime a adopté la stratégie d'attraction des personnes, un plan pour attirer des travailleurs de l'extérieur. La cible était fixée à 100 par année. Résultat? On a attiré 920 personnes depuis 2018. Ce n'est pas loin d'un village, s'exclame le maire Valiquette, qui se félicite que la majorité de ces nouveaux Madelinos ait entre 25 et 44 ans. Une bonne nouvelle, donc, qui pose toutefois un autre problème, l'habitation. On les met où, ces gens-là? Demande le maire, rappelant une évidence. Aux îles, on ne peut pas s'étaler comme sur le continent. S'il y a un endroit où je ne pensais pas entendre parler de densification, c'est bien ici. Or, comme partout au Québec, les îles de la Madeleine sont soumises à la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire du gouvernement québécois. Il faut donc densifier. Le CISSS vient d'obtenir une dérogation pour construire un édifice à 3 étages de 60 logements. Un autre grand employeur construira des dizaines de logements à Cap-aux-Meules où un projet d'éco-quartier se concrétise tranquillement. La municipalité a également adopté des règlements, controversés, il faut le dire, pour mieux encadrer les résidences touristiques. Bref, là encore, on prend le taureau par les cornes, même si construire des logements aux îles coûte 60 % plus cher que sur le continent. On dirait que peu importe le défi que le destin envoie aux Madelinos, ils s'en emparent et font du judo avec. Si ce n'est pas de la résilience, je ne sais pas ce que c'est. Les îles de la Madeleine en bref. Population. 12 654 habitants. Variation, plus 1,4 % par rapport à 2016. Âge moyen, 49,2 ans. Superficie, 202 km². C'était Îles de la Madeleine, au pays de la résilience. Un texte de Nathalie Collard, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
Des proches aidants craignent d'être stigmatisés au travail. Un texte de Jessica Nadeau paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Une personne proche aidante sur trois évite de parler de son rôle au travail par crainte de jugement ou de perte de possibilités, révèle un nouveau sondage Léger. Ça nous montre à quel point il y a encore un enjeu d'acceptabilité sociale, déplore Corinne Vachon-Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille. Ce qu'on entend beaucoup des personnes proches aidantes, c'est qu'elles ont peur d'être stigmatisées par leurs collègues de travail, ajoute Lauriane Étienne, directrice générale de Proches aidants Québec. Elles ont peur qu'on leur en tienne rigueur, de vivre des conséquences relativement à leur absence. Autre élément qui ressort de ce sondage, c'est que les parents se sentent plus à l'aise que les personnes proches aidantes dans l'utilisation des mesures de conciliation, relève Mme Vachon-Croteau. Ainsi, 68% des parents disent se sentir à l'aise d'utiliser les mesures de conciliation famille-travail contre 58% pour les proches aidants. Ça reflète une réalité en organisation où les mesures sont davantage pensées pour les parents. C'est pourquoi il faut continuer de parler de proche aidance, de démystifier cette réalité pour que les personnes proches aidantes se sentent davantage incluses. C'est d'autant plus important que la moitié des proches aidants occupent un emploi, rappelle Mme Étienne. On est dans un contexte de vieillissement de la population, donc il va y avoir une augmentation du nombre de personnes proches aidantes et, par conséquent, une augmentation du nombre de personnes proches aidantes en emploi. Le sondage montre qu'une majorité de proches aidants jugent essentiel que leur employeur offre des mesures concrètes de soutien. Il révèle également que 86% des proches aidants ayant changé d'emploi dans les deux dernières années l'ont fait pour accéder à de meilleures mesures de conciliation famille-travail. Plus de la moitié des proches aidants disent trouver stressant de devoir négocier des accommodements professionnels. Ce stress est particulièrement élevé chez les répondants qui travaillent dans de très grandes organisations, 69%, ou pour une entreprise qui n'est pas favorable à la conciliation, 71%, ou qui offre des mesures insuffisantes en ce sens, 67%, peut-on lire dans le sondage. Les employeurs peuvent aider à faire diminuer ce stress en mettant en place une politique de conciliation famille-travail qui comporte des balises claires en lien avec la proche aidance, explique Corinne Vachon-Croteau, qui accompagne les entreprises dans la mise sur pied de telles mesures via l'initiative Concilivi, chapeautée par le Réseau pour un Québec Famille. Reconnaître la proche aidance. Si la sensibilisation auprès des employeurs est importante, il ne faut pas non plus négliger celle qui se fait auprès du grand public, rappelle Lauriane Étienne, de Proches aidants Québec. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas comme des personnes proches aidantes. Et ça, c'est aussi important à prendre en considération. Si la personne elle-même ne se reconnaît pas comme proche aidante, va-t-elle faire appel à un congé famille ou demander l'adaptation de son horaire? Elle ne se sentira pas légitime de le faire. Mais comment un proche aidant pourrait-il ne pas se reconnaître dans ce rôle? Culturellement, on a tendance à trouver ça normal et naturel de prendre soin d'un proche. Donc, on ne se pose pas cette question-là, explique-t-elle. La proche aidance a un impact sur la sécurité financière des personnes et le concept de conciliation proche aidance-travail est essentiel pour réduire le plus possible l'impact de cet appauvrissement-là, ajoute-t-elle. Le sondage a été mené par Léger pour le compte de Concilivi en mai 2025 auprès de plus de 3000 travailleurs québécois qui sont parents ou proches aidants. C'était « Des proches aidants craignent d'être stigmatisés au travail », un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.
Plongée dans la tête du lecteur, un texte de Philippe Mercure, paru le 12 octobre 2025 dans la presse. L'affirmation tombe comme une surprise, presque un choc dans nos sociétés lettrées. Le cerveau humain n'est pas conçu pour lire. C'est peut-être la raison pour laquelle la lecture fait tant travailler nos neurones, stimulant de très nombreuses zones du cerveau et modifiant profondément nos capacités cérébrales. Le cerveau sous l'effet de la lecture. Sina Ismaili, Étudiant au doctorat en génie biomédical à l'Université de Montréal, me coiffe d'un casque couvert d'électrodes et en vérifie les connexions. Une fois la manœuvre terminée, il m'invite à poser le menton sur un support qui fait face à un écran. Un texte défile sur cet écran. Mes yeux se mettent automatiquement à parcourir les mots. Il s'agit d'un article traitant d'une ferme verticale dans laquelle on fait pousser des fraises. J'oublie rapidement la petite armée de chercheurs qui m'entoure et je me fais happer par le texte. Pendant que je lis, une caméra traque les moindres mouvements de mes yeux, une technique appelée oculométrie. Les électrodes fixées sur ma tête, elles, enregistrent l'activité électrique de mon cerveau. Avec les yeux, on peut inférer ce qui se passe dans le cerveau, m'explique Karim Gerbi, titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences des systèmes et en neuroimagerie cognitive à l'Université de Montréal. Mais pour aller encore plus loin, on combine l'oculométrie à l'électroencéphalographie qui nous informe sur les régions du cerveau qui sont activées. Ça donne encore plus d'informations. Antonin Rossier-Bisaillon, candidat au doctorat en orthophonie à l'Université de Montréal, montre le résultat de l'exercice d'oculométrie. À l'écran, le texte que je lisais réapparaît, cette fois couvert de flèches et de chiffres. Les flèches indiquent la direction vers laquelle se dirigeaient mes yeux. Les chiffres montrent le nombre de millisecondes pendant lesquelles j'ai regardé chaque mot. Antonin Rossier-Bisaillon nous explique. En lisant, on a l'impression que nos yeux glissent régulièrement sur le texte. En réalité, il y a des séquences où l'on bouge les yeux très rapidement et d'autres où les yeux sont arrêtés. Il y a aussi des moments où les yeux retournent en arrière. C'est ce qu'on appelle des régressions. Même pour un lecteur adulte, environ un mouvement sur cinq est un retour en arrière. Ce sont des moments pendant lesquels on vient ajuster, vérifier les choses. Le principe de base de l'oculométrie est simple. Plus les yeux s'attardent longtemps sur un mot, plus le cerveau passe du temps à l'analyser. Dans mon cas, par exemple, j'ai complètement survolé les petits mots comme « le »,« la », »,« ce » ou « et ». Ces mots-là, tu ne les as même jamais regardés, me dit Antonin, mais tu as probablement été en mesure de les identifier malgré tout. La première fois que j'ai lu « ferme verticale », en revanche, mes yeux se sont attardés pendant 177 millisecondes sur ce mot « vertical ». C'est long, considérant qu'il faut généralement environ 60 millisecondes pour reconnaître un mot. On peut penser que je suis peu habituée à voir le mot « vertical » accolé au mot « ferme » et que mon cerveau a mis un moment à bien visualiser le concept. Le résultat de l'encéphalographie, lui, se présente sous l'aspect d'une série de courbes hachurées. Je suis curieux de savoir quelles zones de mon cerveau ont été activées par ma lecture, mais les chercheurs sont désolés de me décevoir. Il faudrait des analyses poussées pour répondre à ma question. C'est que le cerveau génère un bourdonnement constant d'activité, et isoler ce qui provient de la lecture de tout le reste représente une tâche complexe. Pour répondre à une question scientifique, même simple, on aurait besoin de 20 à 30 participants et d'analyses statistiques. Ça prendrait peut-être 2 à 3 mois, me dit Boutena Gemel, directrice de l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal, aussi présente sur place. Même chose pour le clou du laboratoire dans lequel je me trouve, un appareil de magnétoencéphalographie. Parions que vos yeux se sont attardés plus de 60 millisecondes sur ce mot. La machine de plusieurs millions de dollars est installée dans une chambre blindée parce qu'elle détecte des champs magnétiques infiniment petits, un million de fois plus petits que le champ magnétique terrestre. La technique permet de suivre l'activité du cerveau à la milliseconde près. On me fait pénétrer dans la chambre blindée, on descend l'impressionnante machine autour de ma tête et on me fait lire un texte à l'écran. Mais impossible encore ici de tirer des conclusions scientifiques sur ce qui se passe dans mon cerveau. Pour ça, il faudrait lancer un protocole de recherche en bonne et due forme. Lire, une activité non naturelle. Les scientifiques souhaitaient surtout me montrer les techniques qu'ils utilisent pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on lit. Et ce n'est pas pour rien qu'il faut un tel arsenal pour y parvenir. Lire, c'est super complexe, résume Boutena Gemel. Karen Cohen-Gazis est chargée de cours au département d'éducation et de psychologie clinique de l'Université McGill. Elle me rappelle que si l'être humain arpente la Terre depuis des centaines de milliers d'années, il ne lit que depuis environ 5000 ans. Et encore, il est beaucoup plus récent dans l'histoire que la lecture soit devenue accessible et nécessaire à l'ensemble de la population. Lire n'est pas naturel, dit Karen Cohen-Gazit. Le cerveau n'est pas pré-câblé pour lire. Il n'y a aucune zone du cerveau responsable de la lecture. Comment le cerveau y parvient-il alors? Il utilise des structures qui ont été développées pour d'autres usages, un phénomène appelé recyclage neuronal. Les deux principales sont le centre visuel et le centre du langage. Lire consiste essentiellement à créer un lien consolidé, une autoroute, entre le centre visuel et le centre du langage dans le cerveau, dit Karen Cohen-Gazit. Voici un autre exemple de recyclage neuronal. Les lecteurs expérimentés reconnaissent rapidement les mots qu'ils ont déjà vus grâce à une zone appelée aire de la forme visuelle des mots. Or, cette zone s'est développée au fil de l'évolution pour reconnaître les visages. En parlant aux chercheurs, j'ai en fait réalisé qu'il y a un nombre pratiquement infini de couches d'analyse sur la façon dont le cerveau est impliqué dans la lecture. À la base, on peut décortiquer la façon dont le cerveau associe les lettres aux différents sons, puis comment le cerveau accède au sens du texte. Mais on peut toujours aller plus loin. Au début de son roman « La montagne secrète », Gabriel Roy décrit un chercheur d'or qui s'installe dans une rivière des territoires du Nord-Ouest. La rivière était peu profonde, mais large, belle et de courant vif. Le reste était sauvagerie, silence, ciel démesuré, écrit-elle. En lisant cela, j'ai des tableaux plein la tête. Mon cerveau génère des images et même des scènes contenant du mouvement. Quand j'étais jeune adulte, les romans de Jack Kerouac m'ont tellement interpellée qu'ils m'ont poussée à partir en voyage, le pouce en l'air. Encore aujourd'hui, des textes me ravissent et m'émeuvent. D'autres m'apprennent des choses, me font rire ou réfléchir, m'enragent ou ébranlent mes certitudes. Il ne se passe pas un jour sans que mes lectures ne déclenchent des discussions avec mes proches. Bref, lire fait vibrer mon cerveau de toutes sortes de manières et dans toute sa complexité. Vous écoutez « Plongé dans la tête du lecteur », un texte de Philippe Mercure paru le 12 octobre 2025 dans la presse. Quand vous lisez, vous apprenez des choses sur le monde, vous apprenez des choses sur vous-même, vous apprenez des choses sur les autres, vous envisagez des possibilités, vous remettez en question, énumère Karen Cohen-Gazit. Les lecteurs exercés disent des choses comme « Je fais partie de l'histoire, je vois les personnages, mais eux ne me voient pas », continue la scientifique. Quand vous lisez de cette façon, vous visualisez les choses, vous êtes émotivement connecté au texte. Vous utilisez des réseaux très sophistiqués du cerveau, et ça, ça s'appelle l'intelligence, l'habileté à utiliser des réseaux sophistiqués. Une crise de la lecture à combattre. Si lire n'est pas un acte naturel pour l'humain, ça veut dire une chose, la lecture doit être enseignée. Et cet enseignement doit être adéquat. L'une des raisons pour lesquelles nous vivons une crise de la lecture, c'est que les enseignants ne savent pas comment enseigner la lecture et qu'il y a beaucoup d'incompréhension, estime Karen Cohen-Gazit de l'Université McGill. Lorsque la chercheuse voit qu'on présente aux enfants un dessin de chien accompagné du mot « chien », par exemple, elle grince des dents. Pourquoi ? Suivez le raisonnement. Le mot « chien » est formé de trois sons, ou phonèmes « che »,« i », « yin ». Les jeunes lecteurs doivent apprendre à briser les mots en différents sons, explique Karen Cohen-Gazit. Ils doivent décoder ce qu'ils disent, c'est-à-dire associer dans leur cerveau les différentes lettres aux différents sons. Ce décodage se fait dans l'hémisphère gauche du cerveau. Le hic, c'est que certains enfants utilisent plutôt leur hémisphère droit pour lire. Ce dernier regarde chaque mot comme s'il était une image, puis le mémorise au lieu de le décoder. Les enfants qui présentent une dyslexie ont un hémisphère droit très fort, explique la spécialiste. Ce sont souvent des gens très visuels. Ils sont surreprésentés parmi les architectes, par exemple. Si on leur donne le choix, ils vont utiliser leur hémisphère droit et regarder chaque mot comme une image au lieu d'utiliser leur hémisphère gauche pour les décoder. Mais comment diable identifier le problème et savoir quel hémisphère du cerveau un enfant utilise lorsqu'il lit ? C'est en fait très facile. Vous n'avez qu'à lui montrer un mot qu'il ne connaît pas ou un mot inventé. S'il ne sait pas décoder, il va dire « Je ne peux pas lire ce mot, je ne l'ai jamais vu », explique Mme Cohen-Gazit. Elle déplore que trop souvent, les enseignants offrent plusieurs méthodes différentes pour apprendre à lire aux enfants. Or, il n'y a qu'un chemin vers la lecture, insiste la spécialiste. Notons qu'une fois qu'un enfant a appris à décoder les mots, son cerveau pourra ensuite utiliser des raccourcis pour reconnaître certains mots plus rapidement, notamment grâce à l'aire de la forme visuelle des mots. Mais le décodage doit être maîtrisé d'abord, c'est absolument essentiel, martèle la chercheuse. Il faut connaître pour lire. Selon elle, un deuxième problème explique la crise de la lecture dans laquelle nous nous trouvons, le manque de connaissances générales de certains enfants. Apprendre, dit-elle, consiste essentiellement à tisser des liens entre ce qui est nouveau et ce qui est déjà connu. Si je lis sur la géographie ou sur l'histoire du monde et que je ne connais rien à cela, je ne pourrais pas comprendre ce que je lis. C'est comme s'il n'y avait pas de velcro dans mon cerveau pour y raccrocher du nouveau. Or, observe-t-elle, les réseaux sociaux ne permettent pas toujours d'acquérir ces connaissances de base essentielles à la compréhension du monde. Les enfants, aujourd'hui, font de la sélection extrême, dit la chercheuse. Ils peuvent en venir à savoir énormément de choses sur un domaine très spécifique. On voit des enfants qui sont devenus des experts en maquillage. Ils ont vu des tonnes de vidéos sur TikTok là-dessus, mais ils n'apprennent pas sur le monde. On comprend facilement le cercle vicieux que cela peut provoquer. Un enfant qui manque de connaissances n'est pas en mesure de lire, et s'il ne lit pas, il n'acquerra pas de connaissances. Si vous ne savez rien du monde, vous ne pouvez pas lire, résume Karen Cohen-Gazit. Faire son cinéma. C'est l'une des grandes différences entre lire un livre et regarder la télé, un film ou des vidéos. Lors de la lecture, on doit créer ses propres images mentales à partir du texte. C'est même essentiel à la compréhension. Si vous lisez une longue phrase, la seule façon de vous rappeler le début de la phrase, c'est de former des images dans votre tête, dit Karen Cohen-Gazit de l'Université McGill. Sébastien Segate, professeur de psychologie éducationnelle à l'Université de Ratisbonne en Allemagne, s'intéresse aux effets comparés de la lecture et du visionnement de vidéos sur le cerveau. Il a conçu une expérience fascinante que je vous décris ici. Des participants devaient visionner des vidéos pendant une minute ou alors lire de courts textes pendant le même laps de temps. Après chaque situation, l'expérimenteur leur posait des questions du genre « Qu'est-ce qui fait le plus de bruit, un train ou un hélicoptère ?» ou « Qu'est-ce qui est le plus doux, de la soie ou de la laine ?» Pour répondre à de telles questions, le participant doit visualiser dans sa tête la texture de la soie puis celle de la laine, ou recréer le son d'un train et d'un hélicoptère, puis les comparer. Or, après avoir regardé des vidéos, les participants peinaient à effectuer cet exercice mental. Nous avons montré que la capacité de visualisation des gens qui avaient regardé des vidéos pendant une minute était supprimée pour une durée d'environ 30 secondes, dit M. Segate. Une minute de visionnement, c'est peu, rappelle le chercheur. Considérant le temps que passent les adultes, mais aussi les enfants, à regarder des vidéos, les petits effets observés pendant l'expérience pourraient avoir un effet appréciable sur la capacité d'imagerie mentale lorsqu'on les cumule sur une longue période. Le chercheur a aussi suivi des enfants de 3 à 9 ans pendant une période de 10 mois et montré que ceux qui passent beaucoup de temps devant un écran ont une moins bonne capacité de visualisation mentale. D'autres bénéfices de la lecture. Augmente la capacité d'attention. Dans notre monde multitâche, où notre attention est sollicitée par de nombreuses sources, notre mémoire à court terme est très sollicitée. Mais cela se fait au détriment de notre capacité d'attention. La lecture d'un long texte permet de renforcer cette dernière. Pensez à un roman qu'on lit sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cela exerce la mémoire et l'attention à long terme. Créer de la matière blanche. Lire favorise la création de nouvelles connexions dans le cerveau. Des études ont en effet montré que les enfants qui lisent beaucoup fabriquent de la nouvelle matière blanche dans le cerveau. Cette matière est responsable de la transmission d'informations. Développe l'empathie. Des recherches ont montré que lire des textes de fiction permet de s'identifier aux personnages et de se mettre dans leur peau. Cela favorise l'empathie, une qualité dont on a drôlement besoin dans nos sociétés. Augmente le vocabulaire et les connaissances. Lire nous expose à de nouveaux mots, à de nouvelles connaissances et à de nouveaux concepts. C'était « Plongé dans la tête du lecteur », un texte de Philippe Mercure paru le 12 octobre 2025 dans la presse.